En ce temps-là, Jésus, voyant les foules, gravit la montagne, il s'assit et ses disciples vinrent à lui. Ouvrant alors la bouche, il les instruisait en disant « Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux les doux, car ils posséderont la terre. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. Heureux les pacifiques, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux êtes-vous si l'on vous insulte et qu'on vous persécute, lorsqu'on dit contre vous toutes sortes de mensonges à cause de moi. Réjouissez-vous, exultez, car votre récompense est grande dans les cieux. » Asseyez-vous quelques instants. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Comme elles sont faibles, mes amis, les images de l'Apocalypse qui rendent compte de la gloire du ciel. Et pourtant, comme elles sont belles, ces images, tout n'y est que lumière, tout n'y est que joie, et tout n'y est qu'unité. Lux, calme et volupté, aurait dit le poète. Saint Jean compare le paradis tout à la fois à un banquet, tout à la fois à des noces, et tout à la fois à la cour d'un grand roi. C'est-à-dire à trois des plus belles réalités qui soient sur cette basse terre, pour tenter d'évoquer la splendeur des cieux. Mais nous en avons bien le sentiment, c'est encore trop peu. Nous ne pouvons pas nous en tenir seulement à la lettre de l'Apocalypse. Il faut écouter saint Paul nous dire ailleurs, « Dieu a le pouvoir de réaliser en nous, par sa puissance, infiniment plus que nous ne pouvons demander ou même imaginer. » Infiniment plus que ce que nous oserions demander à Dieu et ce que nous oserions nous représenter par voie d'image. Autrement dit, le ciel est infiniment plus beau que ce que nous connaissons de plus beau sur terre. Devant tant de merveilles, je crois qu'il y a une première tentation qui serait de se dire « cette réalité est trop belle pour pouvoir exister en réalité, c'est trop beau pour être vrai ». Ça ressemble tellement à ce à quoi tout homme aspire profondément que, finalement, je me demande si ce n'est pas une pure élucubration de l'intelligence humaine. Ça, c'est la posture du sceptique qui doute de la toute-puissance de Dieu à pouvoir nous procurer un tel bonheur un jour. Je crois que cette posture du sceptique, ce n'est pas celle qui nous concerne, alors je l'écarte d'emblée. Nous vivons une autre tentation. C'est la tentation qui ne remet pas en cause l'existence d'un tel paradis, mais qui doute de pouvoir y accéder un jour. Que Dieu soit suffisamment puissant pour déployer un tel faste, j'y crois bien sûr, j'adhère à Dieu de toute mon âme. Mais que je puisse y entrer un jour, ça c'est un autre problème. Nous doutons, mes frères, nous doutons soit de pouvoir y accéder jamais, soit de pouvoir y accéder dès après notre mort, sans passer par la case purgatoire. Avouons que nous avons très facilement cette tendance à considérer qu'il y a deux voies, finalement, qui mènent à Dieu. Il y a la voie directe, celle du ciel, et puis il y a la voie un peu plus large et un peu plus indirecte qui passe par le purgatoire. Nous avons du mal à nous représenter qu'il est indispensable de se fixer comme priorité d'entrer au ciel dès après notre mort. Au moment où nous allons mourir, il nous faut aspirer à entrer directement au ciel. Je voudrais ce matin vous réveiller, je voudrais ce matin nous réveiller, parce que je suis atteint par cette même léthargie et par ces raisonnements complètement faux qui rendent obligatoire la case purgatoire. Vous avez tous entendu monter ce refrain de la foule au moment de la mort de Jean-Paul II. C'était cette exclamation « Santo subito ».« Santo subito », »,« saint immédiatement ». Pas seulement « canonisez-le tout de suite », mais « saint immédiatement », c'est-à-dire nous avons la conviction, nous autres chrétiens, guidés par le Sensus Fidei, qu'il est entré dans la gloire du ciel. Il a été saint subitement, subitement après sa mort. Vous voyez, c'est un peu ce même cri qui, silencieusement, si je puis dire, sort de la bouche du Père de toute éternité à l'intention de chacun d'entre nous. Dieu nous dit « Santo subito », je te veux saint tout de suite. Je ne veux pas reporter au calendrier grec ton entrée auprès de moi, je veux que tu sois saint dès ta mort. C'est ça le dessein de Dieu sur chacun d'entre nous. Dans le dessein premier de Dieu, l'homme est fait pour la patrie. L'homme est fait pour entrer dans le vis-à-vis immédiat, facial d'avec lui. Nous n'avons pas d'autre finalité. Et si Dieu a permis l'existence du purgatoire, ce n'est que comme un pis-aller. Ce n'est que comme, j'oserais dire, presque à contre-cœur de la part de Dieu. Il a mis en place dans sa miséricorde un lieu dans lequel nous pourrions être purifiés, parce qu'avant notre mort, nous n'avons pas su déployer tous les moyens pour entrer dans ce face-à-face. Voyez, Dieu ne veut pas que nous végétions dans le purgatoire. Ça, c'est quelque chose qui doit sortir de notre esprit et de notre cœur, et je sais que cette conviction est profondément enracinée, malheureusement, en nous. Je pêche, et à chaque fois que je pêche, je me dis « Bon, c'est pas très grave, il faut que je me débrouille pour mourir en état de grâce, ce qu'après tout, je devrais pouvoir faire en vivant à peu près honnêtement comme chrétien, bon, me confessant parfois dans l'année, allant communier, essayant de communier tous les dimanches, essayant de vivre de chacun des commandements, ma foi, je devrais y arriver. » Et ça, mes amis, c'est de la présomption. On vise lorsqu'on vise quelque chose, il faut toujours forcer la note. Si nous ne visons que le purgatoire, j'ai bien peur qu'un jour nous finissions en enfer. Il nous faut viser le paradis en nous disant que peut-être un jour nous entrerons au purgatoire. Mais il faut viser le paradis. Le mois de novembre met devant nos yeux les fins dernières. C'est un mois au cours duquel nous devons entrer en nous-mêmes. Avant d'entrer, pendant le mois de décembre, dans cette attente de l'avènement du Sauveur. Ce mois de novembre, il doit être un mois de réflexion. Il met aujourd'hui devant nos yeux, le jour de la Toussaint, le sort des élus dans la loi, et il met dès demain, le 2 novembre, jour de la commémoration des fidèles défunts, le sort des âmes du purgatoire. C'est-à-dire qu'il nous faut mettre à profit, dès aujourd'hui et demain, et tout le mois de novembre, cette double présentation, cette double image du paradis et du purgatoire, pour nous demander la différence qui existe entre les deux, pour nous demander ce qui a bien pu se passer pour qu'une âme que Dieu prédestine, que Dieu veut dans son paradis et immédiatement après sa mort, pour qu'une telle âme, donc, soit entrée finalement au purgatoire. Qu'a-t-il manqué à la vie de ce chrétien pour qu'il soit au purgatoire et non pas directement au paradis? Et c'est une question que nous devons nous poser pour nous-mêmes. Qu'est-ce qui, dans ma vie, fait obstacle à ce que j'entre tout de suite au paradis, et qu'est-ce qui risque de me faire tomber dans le purgatoire, dont je vous rappelle que le sort est assez peu enviable? Le purgatoire, c'est une sorte d'enfer, à la différence que ce n'est pas un temps éternel et que nous avons la ferme certitude d'un jour entrer dans la gloire du ciel. Mais nous subissons au purgatoire des purgations, d'où le nom de purgatoire, qui s'apparentent au feu de l'enfer. Les âmes du purgatoire qui ont été vues par certains privilégiés dans des visions, je pense notamment à Fatima évidemment, est un sort effrayant. Nous n'avons pas à considérer que le purgatoire c'est une salle d'attente gentillette, coquette, avec quelques revues pour nous divertir. Non, le purgatoire n'est pas une salle d'attente de ce type-là. Le purgatoire c'est une salle, alors de torture ce serait excessif, mais en tout cas c'est une salle où l'on vous charcute, ou plutôt où vous-même souhaitez être charcuté parce que vous voyez que vous n'êtes pas suffisamment digne pour entrer en présence de Dieu. Les peines du purgatoire sont infligées, sont voulues par l'âme elle-même, qui se sait indigne d'entrer en présence de Dieu. Mystérieux. Bref, le purgatoire, nous n'avons absolument pas à y aspirer. Alors, quel est l'obstacle qu'il nous faut écarter? Quelle est cette tare qui a causé le sort d'une âme qui est au purgatoire? Comment serait-il qu'elle ne soit pas entrée, je le répète une dernière fois, immédiatement au ciel? Je crois que la principale tare, c'est le fait que cette âme n'ait pas eu le sens des priorités. C'est ça qu'il nous faut avoir pendant notre vie pour entrer directement au ciel. Avoir le sens des priorités. Je m'explique, et pour ça je prends le fameux passage de l'Évangile où on voit notre Seigneur Jésus en présence de Marthe et Marie à Béthanie. Vous avez la petite Marie qui est au pied du Christ, qui contemple le Seigneur, qui boit ses paroles et qui ne fait rien d'autre. Elle se contente d'être là, contemplative. Et puis vous avez sa chère sœur Marthe qui, elle, s'agite en tous sens pour vaquer aux occupations de la maison et pour faire en sorte qu'on reçoive dignement même le Seigneur. Et vous connaissez parfaitement la conclusion de cette petite histoire, alors que Marthe se plaint auprès du Seigneur, que lui dit le Seigneur, Marthe, Marthe, tu t'agis pour bien des choses. Une seule chose est nécessaire. Ta sœur l'a choisie, elle ne lui sera pas retirée. Une seule chose est nécessaire. Ce qui pêche chez Marthe, qui plus tard s'est rattrapé et qui a fini, comme on sait, sans doute, c'est même sûr, par rentrer directement au paradis. Mais Marthe, à l'époque, aurait risqué le purgatoire. Nous sommes cette petite Marthe-là qui se disperse dans des occupations absolument légitimes. Elle veut recevoir dignement le Seigneur. Et le Seigneur ne lui reproche pas de s'occuper de lui. Il serait bien bête, du reste. Le Seigneur lui reproche de ne pas avoir le sens des priorités. La seule chose nécessaire, la première chose, Marthe, je veux bien que tu nous prépares l'apéritif et le repas. La première chose qui compte, c'est que tu t'assoies à côté de ta sœur et que tu m'écoutes. Je suis la vérité, je suis là pour t'enseigner, je suis la vie, alors écoute. Et après, tu agiras. Vous voyez, c'est cette petite Marthe qui nous représente tous. Nous n'avons pas le sens des priorités. Et le fait de se disperser dans toutes sortes de tâches, souvent avec orgueil, il faut bien le dire, parce que nous voudrions que les choses soient parfaites. Nous voudrions pouvoir mener de front des dizaines d'activités, avec tact, avec brio, et pouvoir être reconnus comme tels par ceux de notre famille, ceux de nos proches, ceux de nos collègues. Bien. Nous voulons parfois pour Dieu le Père. Nous avons l'impression que nous serons les seuls à savoir faire ces tâches-là. Je crois qu'on peut tous se reconnaître dans ce penchant-là. Eh bien, lorsque nous nous dispersons dans de telles tâches très diverses, nous perdons ce qui doit être le cœur de notre vie. Notre vie se déconcentre au sens strict. Elle perd son centre. Elle perd ce qui fait son unité. Vous voyez, cette espèce d'élément centrifuge qui est le fait de ne se consacrer d'abord qu'à Dieu. Vous connaissez par cœur cette phrase de Jeanne d'Arc, Dieu premier servi. Vous connaissez très bien sans doute également cette phrase de Saint Benoît dans sa règle, rien ne sera préféré à l'œuvre de Dieu, c'est-à-dire à l'office divin et à tous les actes de la religion. Il parlait à des moines qui devaient faire tourner une abbaye, et on sait le nombre de moines qu'il y avait en ce temps-là. Il parlait à des moines qui savaient ce que c'était que l'efficacité, qui étaient des bâtisseurs, et que leur demandait-il ? Dans un premier temps, mes frères, n'oubliez pas, la seule chose qui compte, en définitive, l'œuvre de Dieu. J'ai toujours été frappé, et vous sans doute également, par le temps que perdaient les moines, ou les prêtres, même séculiers, mais un peu plus sérieux que moi, à prier avant chacune de leurs occupations. C'est très frappant. On se dit qu'ils ont déjà peu de temps pour faire le travail manuel ou le travail intellectuel qui leur est imparti, et voilà qu'ils se mettent à réciter des litanies au début de telles leçons ou au début de telles tâches. Eh oui, ils ont compris qu'au cœur de chaque activité, précisément, le levier ou le levain, c'était le lien à Dieu. C'était la prière, c'était l'adoration. Mes frères, si la Toussaint devait nous pousser à quelque chose, ce serait bien à cela. Pour éviter de nous retrouver au purgatoire, à force de dissipation, à force de division des forces, il faut recentrer notre vie. Et ne pas oublier que la première tâche, le cœur de notre vie, encore une fois l'élément centrifuge de notre vie, et qui donnera toute sa cohérence et toute son unité à notre vie, c'est l'union à Dieu. Tant que nous n'aurons pas compris ça, nous comprenons bien, il faut que ça descende dans le cœur. Tant que nous n'aurons pas cela présent au cœur, n'espérons pas entrer directement au ciel. Mais cela est possible. C'est ce qu'il faut en même temps se représenter. Cela est possible par la grâce de Dieu. C'est le Saint-Esprit qui nous guide. C'est le Saint-Esprit qui nous attache fermement à Dieu. Et c'est le Saint-Esprit qui, ensuite, dans chacune de nos activités connexes, vient comme baigner toutes ces activités pour qu'elles restent dans une parfaite cohérence et qu'elle nous oriente dans un même élan vers le ciel. Faisons de n'importe laquelle de nos activités de la journée une activité permettant d'accéder plus rapidement au ciel. Vous voyez, cette conception des choses est celle de tous les saints. Quand on considère que le Seigneur a passé le début de sa vie publique par 40 jours au désert, c'est-à-dire par une parfaite inefficacité, une lutte, qu'il a passé l'essentiel de ses nuits à prier. Quand on considère des personnes comme Saint Paul, que fait-il ? Il se convertit sur le chemin de Damas, Et où va-t-il après sa conversion? 3 ans en Arabie. 3 ans de désert avant d'avoir l'efficacité qu'on sait. Saint Vincent de Paul, mon saint patron, passait 2 heures du début de sa journée en oraison. Et quand on connaît la fécondité de saint Vincent de Paul au plan apostolique, au plan des activités humaines, on se dit que sans doute il avait raison, comme saint Paul et comme le Seigneur Jésus. Voilà, mes chers amis, le peu de choses que je voulais vous dire aujourd'hui, mais je crois vraiment cet élément très important. Recentrons nos vies. Recentrons nos vies et soyons certains que par la simple volonté de recentrer nos vies, alors le Seigneur ne pourra pas nous refuser l'accès direct au ciel. C'est quand même quelque chose de très beau. Devant le serviteur fidèle, vous savez, le Seigneur, dans ses paraboles, montre un roi ou un intendant qui confie des talents à chacun de ses vicaires, à chacun de ses serviteurs. Il confie 5, 2, un talent, voilà. Et lorsque ceux qui ont fait fructifier arrivent avec les talents qu'ils ont acquis, grâce à leur travail, que leur dit le maître? Le maître leur dit: c'est bien, serviteur bon et fidèle, parce que tu as été fidèle en peu de choses. Le Seigneur ne nous demande pas la lune, il nous demande peu de choses. La fidélité à la prière, la fidélité à cette priorité absolue qui est l'union à Dieu. C'est tout ce qu'il nous demande. Et nous avons l'impression qu'il faudrait toutes sortes d'actes héroïques relevant de l'athlétisme le plus incongru. Non, la fidélité en peu de choses. Parce que tu as été fidèle en peu de choses, je t'en confierai de grandes. Entre dans la joie de ton être. Voilà ce que le Seigneur nous promet. Mes frères, je demande au Saint-Esprit d'éclairer nos âmes et surtout d'éclairer notre cœur pour que nous recentrions notre vie, certains que par cette simple volonté de recentrer nos vies, nous entrerons directement au ciel, parce que c'est la volonté de Dieu. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ainsi soit.